Je ne sais pas pour vous, mais il y a du feu dans cette place ici ce matin. Il y en a quelques-uns, on entend ça en arrière ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais il y a du feu dans cette place ici ce matin. L'amour renversant de Dieu. On doit comprendre ce matin que l'amour de Dieu va nous pourchasser, peu importe jusqu'où on va fuir, jusqu'aux extrémités de la terre, à l'autre bout de la planète, l'amour de Dieu ne vous lâchera jamais. Wow! Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, ça va être un moment puissant dans la présence de Dieu. On est dans une série en route vers la résurrection. Et je crois que dans ce lieu ce matin, il va y avoir des résurrections spirituelles de personnes au nom de Jésus. On va parler aujourd'hui des promesses de la résurrection. Premièrement, il faut comprendre que la résurrection est l'accomplissement d'une promesse. Jésus avait prophétisé, avait annoncé sa résurrection. Et quand le Seigneur dit quelque chose, ça arrive. Il y en a deux ou trois, ben c'est un début de réunion. Il y a quelques années, ben plusieurs années de ça, je suis allé dans une conférence en Californie. Et le pasteur Chuck Smith a donné un message qui m'a touché profondément, particulièrement lorsqu'il a raconté ceci. C'est un pasteur très âgé, il est décédé aujourd'hui, mais il était déjà très avancé en âge à ce jour-là, à ce moment-là. Et il a raconté que quand il a commencé dans le ministère, il était pasteur d'une petite église et il avait un travail à plein temps à côté. Et il a traversé des moments très difficiles financièrement. Ça se passe dans les années 50, il avait une dette de 400 $ qui l'empêchait de dormir la nuit. Combien trouvent qu'il n'était pas si mal pris que ça, version 2024? Mais dans les années 50, c'était énorme. Il ne voyait pas de possibilité de s'en sortir. Et un matin, à son travail, son patron est venu le voir et lui a proposé une promotion qui impliquerait un salaire vraiment meilleur, qui lui permettrait de libérer sa dette, sauf que c'était un emploi qui demandait tout son temps et il faudrait qu'il quitte. Il lui aurait fallu quitter son poste dans le ministère, arrêter son ministère. Et pendant des jours, il n'en a pas parlé à son épouse, pendant des jours et des semaines, il est angoissé par cette pensée. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation et il y a une opportunité ici, mais je vais devoir quitter le ministère. Et un matin, alors qu'il n'arrivait pas à dormir, il a pris la décision, demain matin, j'annonce à mon épouse, je quitte le ministère, je prends la promotion. Et le matin, pendant qu'il est en train de prendre le petit déjeuner, il cherche une façon d'annoncer la nouvelle à son épouse, le téléphone sonne. Il prend le téléphone, c'est des amis de longue date qui vit dans une autre région qui l'appelle puis dit, hey, « Chuck, on prie pour toi depuis un bon bout de temps et le Seigneur nous a mis à cœur de te faire un don. » Combien aiment ce genre d'appel le matin par le petit déjeuner? Le Seigneur nous a mis à cœur et c'est bizarre, mais il nous a même donné le chiffre du don et on croit vraiment qu'on doit te donner 400 $. Et là, lui, il est éberlué, il dit « Ouah, incroyable !» tout ça. Et puis, il dit « On va te l'envoyer par la poste, donc t'inquiète, tu vas recevoir ton 400 $. » Là, il raccroche, il raconte toute l'histoire à sa femme. « On a une dette de 400, j'étais pour tout quitter à cause de la promotion, mais waouh, c'est incroyable, on va avoir le 400, on va pouvoir continuer notre ministère. » Et sa femme lui dit « Qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont l'envoyer ?» Et il a répondu ceci. Il a dit, ce genre de personnes, ces amis-là, quand ils disent quelque chose, ça arrive. Et quand il a dit ça, le verset, psaume 33, verset 9, lui a sauté à la figure, qui dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est comme s'il y a eu un moment de repentance devant Dieu, j'ai plus confiance dans la parole, dans la promesse d'un ami que dans la promesse de Dieu qui pourvoirait à tous mes besoins dans le ministère. Et il racontait ce jour-là, il dit, plus jamais, à partir de ce jour-là, il a douté l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Et il a fondé un mouvement d'église de plusieurs centaines d'églises. Il est à l'origine du réveil qu'il y a eu dans les années 70 sur la côte ouest américaine. On appelle ça le Jesus Movement. Il y a même un film, Hollywood a même fait un film sur son histoire. Pour 400 $, il aurait pu passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, manquer la promesse. Mais ce matin, je veux déclarer sur chaque personne ici dans ce lieu, il y a des promesses de Dieu et elles sont oui et amen et elles vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Il dit et la chose arrive. Donc ce matin, ça va être un message très calme, vous me connaissez, c'est juste un moment de... Ce matin, on va regarder à deux personnages qui... La série, c'est « En route vers la résurrection ». Mais ce matin, on va regarder deux personnages qui sont en route loin de la résurrection. Et en fait, peut-être qu'il y a des gens ici dans cette salle, je vois plein de visages, je ne vous connais pas tous, je ne connais certainement pas votre histoire, mais Dieu connaît ton histoire. Et il y a peut-être des gens dans cette salle ce matin, en ce moment, vous êtes en route loin de la résurrection, mais je déclare par la foi, avant la fin de ce message, il va y avoir un revirement de situation et vous allez revenir vers le lieu de la promesse, vers le lieu du miracle dans le nom de Jésus. La résurrection est la preuve que lorsque Jésus dit quelque chose, ça arrive. Et je veux déclarer sur certaines personnes, Habacuc, chapitre 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dis à ton voisin, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils abandonnent la promesse juste avant le miracle. Et on va lire ensemble, on va rester dans l'Évangile, en fait, le deuxième plus beau nom dans la Bible après Jésus, Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Bon, première chose qu'il faut établir ce matin, pour que la promesse s'accomplisse dans notre vie, on doit être au lieu de la promesse. Et dans, en l'occurrence, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, le lieu de la promesse de la résurrection, c'est Jérusalem. La place à être, alors que pourtant, c'est au moment où ça se passe, toute cette histoire-là, c'est un lieu de tension. C'est un lieu de down, même pour les disciples, un lieu de déprime pour les disciples, parce que Jésus, ils l'ont vu être crucifié à la croix. C'est un lieu de déprime, c'est un lieu où tu as envie de te sauver en courant, alors que c'est le lieu de l'opportunité. Et des fois, dans notre vie, on a envie juste de s'enfuir de notre situation, alors que c'est le lieu de la promesse, le miracle. Attention, ça m'arrive des fois de dire des choses puissantes, préparez-vous, ça va être puissant. Le miracle doit avoir lieu là où il y a besoin d'un miracle. Quelqu'un dit amen? Donc, c'est à Jérusalem que Jésus est, entre guillemets, mort sur la croix. Donc, c'est à cet endroit que la promesse doit s'accomplir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, eux, à la place, ils s'en vont en route loin de la résurrection. Ils s'en vont à Emmaüs, et ça, la Bible dit que c'est à 60 stades de distance, langage 2024, l'équivalent d'environ 11-12 kilomètres. Il faut comprendre que les disciples d'Emmaüs, c'est des disciples. Ce sont des disciples de Jésus. Ce n'est pas juste des gens, des spectateurs lointains, c'est des disciples. Donc, c'est quelqu'un qui avait probablement écouté les discours de Jésus. C'était des gens qui avaient peut-être vu même des miracles s'accomplir. C'est des gens qui croyaient. Ils ont fait 12 kilomètres de marche pour aller, entre guillemets, à la conférence de Jérusalem pour voir Jésus. Et ça tourne en cauchemar. Non seulement ils ne vont pas voir, mais peut-être qu'ils ont vu Jésus, mais non seulement ce n'est pas du tout ce qu'ils s'attendaient, mais en plus, Jésus va mourir cruellement sur la croix. Donc, c'est une scène vraiment triste à ce moment-là, alors qu'eux avaient des méga attentes. Et il n'y a rien de plus décevant que lorsque tu as des méga attentes. Quand tu n'as pas d'attente, tout ce qui arrive est un bonus. Puis s'il n'arrive rien, tu n'avais pas d'attente. Mais quand tu as des grandes attentes, c'est là qu'il y a les plus grandes déceptions. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années que je sers le Seigneur, j'ai voyagé, j'ai rencontré tellement de monde. Et le nombre de personnes que j'ai vues au fil des ans dans les églises, déçues, déprimées, parce qu'ils ont des grandes attentes. Et moi, je suis de ceux qui promouvoient le fait d'avoir des attentes. Par exemple, je suis venu ici ce matin avec des attentes. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Je m'attends à ce que Dieu agisse. Je ne suis pas venu juste ici ce matin. Non, je suis venu. J'ai des attentes, Seigneur, que ta parole va faire son effet comme d'habitude, avec puissance dans les cœurs. Mais quand tu as des attentes et que Dieu promet quelque chose et que tu ne le vois pas arriver, c'est terrible. Je me souviens, ici à Montréal, il y a plusieurs années de ça, je suis allé voir un spectacle. Et en fait, on m'a invité, on m'a dit « spectacle samedi soir ». La seule information que j'avais, c'est « spectacle samedi soir ». Donc, je vais au spectacle, et là, j'apprends qu'ils ouvraient les portes à 19h. Donc, j'arrive à 19h, je rentre dans la salle, c'est plein de monde, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Et là, à 19h30, il y a un gars qui vient au micro, il dit « ça va être un peu plus long qu'on pensait, mais restez ici, on va mettre de la musique ». Là, ils ont commencé à faire chanter deux, trois artistes, les pauvres artistes qui essayaient de réchauffer la salle. « On n'est pas là pour eux, on ne veut pas les voir, on attend l'artiste ». Et finalement, ça s'est rendu 21h. Et l'artiste n'est pas arrivé. Donc, moi, j'ai dit, ça suffit le niaisage, comme on dit au Québec. Donc, je suis parti. Et là, je suis parti déçu, parce que c'est un artiste que j'apprécie énormément. Je suis parti déçu que l'artiste ne soit pas là, que la soirée n'a pas eu lieu. Mais là, quand j'arrive chez nous, je commence à recevoir des messages. Luc, soirée incroyable! En fait, le gars est arrivé à 9h30. Soirée incroyable, c'était Luc, tu sais pas ce que t'as manqué. Double déception. Et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver aux disciples d'Emmaüs. C'est que là, on va en parler dans un instant, mais eux, ils s'attendent à quelque chose et non seulement ça n'arrive pas, mais la situation dégénère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a déjà vu une situation dégénérer? Ça peut dégénérer. Et dans Luc chapitre 24, au verset 13, ça dit « Et voici... ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 11-12 kilomètres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le mot « éloigné ». Ils sont en train de s'éloigner. Le village d'Emmaüs est éloigné de Jérusalem. Jérusalem de 12 kilomètres. Et le mot qu'ils utilisent dans le grec pour éloigner, c'est le mot « apécho » qui veut dire « séparé de la source ». Oh, que j'ai trouvé ça bon quand j'ai vu ça. Parce que ça explique tout. C'est-à-dire que le lieu de la promesse, c'est le lieu où Dieu veut agir dans ta vie. C'est le lieu où Dieu veut accomplir ce qu'il a promis dans notre vie. C'est le lieu du surnaturel. C'est le lieu du miracle. C'est le lieu de la provision. C'est le lieu où ça se passe. C'est le lieu où il y a les bonnes personnes dans ta vie. C'est le lieu où on doit être. C'est la source. C'est là que ça va se passer, mais dans leur déception, ils s'éloignent de la source. Et ça, c'est un truc que j'ai vu au fil des ans, j'allais dire au fil des siècles, je ne suis pas rendu là encore, mais au fil des ans, c'est un truc que j'ai vu souvent, des gens qui s'éloignent de la source. L'impatience, ce qui n'existe pas dans la vie d'aucune personne ici, mais pour les autres personnes ailleurs, l'impatience face à la promesse va souvent pousser les gens à se séparer de la source, à retourner en arrière, à retourner au point de départ, à retourner aux choses qu'on a même quittées. Vous savez, j'ai plein d'amis immigrants d'un peu partout, tout ça, et je parle souvent avec mes amis immigrants. Ce qui est intéressant, c'est cette semaine, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo où ça disait... la fin de l'hiver au Québec, et là tu vois le ciel bleu, du gazon, tout ça, des gens presque en t-shirt, et après ça tu vois le début du printemps, et là tu vois l'apocalypse qu'on a eu hier, la tempête de neige, tout ça. Et j'ai souvent vu des immigrants par exemple, qui ont quitté des contextes épouvantables, qui ont quitté des situations épouvantables dans leur pays où ils étaient, et ils arrivent ici par exemple, ça peut être un autre pays, mais ils arrivent ici, et là, ça ne tourne pas comme ils pensaient. Est-ce qu'il y a des immigrants ici dans cette salle qui savent que des fois, ça ne tourne pas toujours comme tu pensais? Ça ne tourne pas comme tu pensais, ça ne s'ouvre pas comme tu pensais, tu n'as pas l'emploi que tu pensais, tu n'as pas l'appartement que tu pensais, tu n'as pas le visa que tu pensais. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas comme tu pensais, et là, ça tarde. Et là, le réflexe, je retourne dans ma galère. Mais c'était pire! Et ça, c'est un réflexe qu'on voit souvent les gens retourner en arrière. Ou bien le ministère. J'ai plein de collègues, amis dans le ministère. Et un des réflexes dans le ministère, surtout ceux que... En fait, moi, avant d'aller dans le ministère, j'avais un emploi pourri, minable. Donc, quand je me suis lancé dans le ministère, c'est devenu compliqué. J'ai pas le réflexe de retourner à mon emploi, moins le réflexe. Mais il y a des gens qui ont eu une carrière, qui ont eu des emplois, ils ont eu quelque chose qui marchait, qui était vraiment bon, et ils ont quitté ça pour aller dans le ministère. Et quand ça se met à aller difficile, on va dire, dans le ministère, des pressions, les finances, de la critique, toutes sortes de choses qui viennent, le réflexe dans la tête et dans le cœur, c'est pourquoi je ne retourne pas à ma job. C'est pour ça que c'est silencieux dans cette salle ce matin. Le retour où on vient, même chose dans le business. Je suis tanné de ma job, je suis tanné du salariat, je veux ma business. Là, tu lances ta business et là, tout à coup, après la première année, Revenu Québec t'envoie une lettre d'impôt et c'est plus que tu pensais. Et là, tout de suite, si c'est ça, je retourne à ma job. Mais ça faisait des mois que tu étais malheureux, des années que tu voulais lancer ta business. Donc, l'attente et l'impatience face à l'accomplissement de la promesse nous fait retourner en arrière. Je me souviens, il y a quelques années, je suis parti en vélo de Montréal et je suis parti à Boston en vélo, petite promenade de vélo. Et je suis parti en vélo et je me souviens, j'avais mes bagages, je voulais faire du camping, tout ça. Et je me souviens, j'ai fait un selfie avec mon vélo, tout ça. J'ai mis ça sur les réseaux. Je pars à la mer. Et là, tout le monde m'écrit « chanceux, oh, toi, ça me prendrait un emploi comme toi, être flexible, chanceux, chanceux. » Et là, j'étais tout fier. Le premier soir, j'arrive de l'autre côté de la frontière, j'arrive à Plattsburgh, New York, j'installe ma tente, une tempête apocalyptique, orage, il y avait tellement d'éclairs, c'était comme si on était en plein jour. Des éclairs, des coups de tonnerre, une pluie diluvienne, l'eau commence à rentrer dans la tente, tout ça. Je suis dans ma tente, j'essaie de rester dans le milieu, il y a de l'eau, les éclairs, le tonnerre. Et là, je me dis, c'est-tu dangereux dans une tente? Et... dans l'eau. Une chance que je n'ai pas pensé à ça. Alors, imaginez à quoi vous pensez que j'ai pensé. J'en retourne, comme on dit au Québec, en way à maison. Mais le problème, c'est que j'ai mis sur le réseau « Prochaine photo à la mer ». Je peux plus retourner en arrière. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, retourner en arrière n'est pas une option. La promesse. Dis à ton voisin, retourner en arrière n'est pas une option. Emmaüs n'est pas une option. Et c'est pour ça, hein? C'est pour ça que Hernán Cortés, en 1519, quand il est arrivé pour envahir l'Empire aztèque, il s'est dit, les gars, avant de partir attaquer, on met le feu à nos bateaux. Ils viennent d'Espagne, c'est en 1519, il n'y a pas de vol direct. Ils ont mis le feu aux bateaux. Laissez-moi vous dire qu'ils se sont battus grave, les gars, et ils ont gagné. Mais il y a plein de gens qui gardent Emmaüs en arrière. Quand ça va devenir trop intense, Emmaüs. Quand je vais être découragé, Emmaüs. Quand il va manquer d'argent, Emmaüs. Quand je vais me faire critiquer, Emmaüs. Quand je vais être down, Emmaüs. Ce matin, dans le nom de Jésus, la promesse est à Jérusalem. C'est là qu'on va, c'est là qu'on reste. C'est pas une option. Luc chapitre 24, verset 14, là, on rentre dans ce que j'appelle le langage de la promesse. Ça dit dans Luc 24, 14, « Et ils s'entretenaient, là ils sont en train de marcher vers Emmaüs, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » En fait, il faut que vous compreniez ceci ce matin, la route d'Emmaüs est une route pathétique sans futur, je l'ai dit. C'est une route où il n'y a pas de futur, c'est une route où tu es en mode « ce qui s'est passé ». Que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, tu peux savoir si quelqu'un vit et est en mode promesse par son langage. Moi, quand je parle avec les gens, je suis très, très à l'écoute du langage des personnes. J'écoute comment les gens parlent, ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche, tout ça. Et tu peux savoir si quelqu'un est en mode promesse de Dieu dans sa vie par son langage. C'est-à-dire que si tu es en mode Emmaüs, c'est un langage passé, ce qui s'est passé. C'était mieux avant, on était tellement bien avant. Ah, c'était pas comme ça avant. Ah, dans l'église avant, avant les gens, avant. Mais j'aimerais tellement, quand les gens parlent comme ça, j'aimerais tellement leur faire écouter un enregistrement d'avant. C'était mieux avant. En 1992, c'était vraiment mieux avant dans les églises. C'était vraiment mieux avant. Et là, le jour de ta naissance, avant, c'était vraiment mieux. Mais les gens qui sont en mode promesse de Dieu, même si ce n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être incroyable. Nous, on connaît le futur de l'histoire. On sait que la promesse va s'accomplir. On sait que Jésus va ressusciter. On sait qu'il va y avoir l'effusion de l'Esprit. On sait qu'il va y avoir l'expansion de l'Évangile. On sait qu'il va y avoir le réveil du livre des Actes. On sait que l'apôtre Paul va se lever. On sait le futur. Donc, quand tu es en mode promesse, c'est compliqué. Jésus a été crucifié, on ne comprend pas du tout. Je ne lis pas en ce moment le scénario, je ne sais pas ce qui va arriver, mais Dieu l'a dit, il va le faire. Il l'a promis, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance à la promesse parce qu'il dit et la chose arrive. Oh, il y a quelque chose, je vais prêcher dans cette direction-là. Le langage, quel est ton langage? Comment parles-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Eux, ils ont oublié ce que Jésus a dit. Ils sont en train de s'éloigner de la source. Plus tu t'éloignes, écoutez bien ceci, plus, c'est fascinant, c'est tellement vrai, plus tu t'éloignes de la source, plus ton langage change. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne parlent pas pareil. Au moment où on enregistre ce message, pour ceux qui nous regardent, eh bien, il y a des gens en mars 2024 qui n'ont pas le même langage qu'en décembre 2023. Et s'ils continuent à s'éloigner de la source, en septembre 2024, n'auront plus du tout le même langage. Et si en ce moment, tu es en train de changer de langage, dans le nom de Jésus, on revient au langage de la promesse. Amen. On ne s'éloignera pas de la source parce qu'en fait, notre langage, ça c'est puissant, j'aurai un autre message là-dessus une autre fois, mais notre langage amène une atmosphère. Ouf! Chaque personne ici a une vibe. Dis à ton voisin, quelle est ta vibe? Non, mais c'est vraiment hallucinant. Chaque personne amène une vibe. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va faire des annonces. Il y a une vibe. Après ça, quelqu'un d'autre arrive, va faire un témoignage, il y a une vibe. Pasteur Claude arrive, il y a une autre vibe. Tout le monde amène une atmosphère. Et c'est pour ça que quand tu alignes sur l'estrade des gens qui ont des vibes promesses, le feu prend dans la place. On fera pas le test, mais on ferait un test. On amènerait toutes des vibes Emmaüs ici. Ah, c'est dur, l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Ah, j'ai vécu une semaine épouvantable, je sais pas quoi. Un après l'autre, chantons. Ah, oh, Dieu. Je vous garantis qu'on partirait de l'église. Les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé à la première réunion? Une vibe Emmaüs. On transporte une atmosphère par notre langage. On dégage. C'est pour ça que des fois, je disais à Pasteur Claude avant la réunion ce matin, je disais, il y a une puissance incroyable dans les silences. Le nombre de troubles qu'on pourrait s'éviter en juste gardant le silence. Une journée silence est une journée où tu as beaucoup moins de problèmes. Parce que, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que quand tu as un langage Emmaüs, non seulement tu te détruis toi-même. Est-ce que vous êtes déjà auto-downé? Tu parles, puis avant que tu parles, tu étais plus encouragé qu'après que tu aies parlé. Ce matin, changement de langage dans le nom de Jésus, langage de la promesse. C'est drôle parce que des fois, on est en voiture avec mon épouse, et elle a son téléphone avec le Bluetooth dans la radio, et donc c'est la musique qui est connectée à son téléphone. Et des fois, ça arrive, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, on va au magasin, elle va juste chercher quelque chose dans le magasin. Donc on est dans la voiture, toum, 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 toum. Et là, elle sort de la voiture, toum, toum, toum. Plus rien. L'ambiance change tout de suite. Et après ça, elle même pas, et des fois, elle est juste à la porte, et à 200 mètres, toum, 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 ça recommence dans l'auto. Eh bien, j'aimerais déclarer ce matin qu'on va être des toum, 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 toum. Quand vous arrivez à l'église, il se passe quelque chose. Quand tu t'assieds à table au restaurant et que tu te mets à parler, il se passe quelque chose. Quand tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un, il se passe quelque chose. Quand tu envoies un texto, il se passe quelque chose. Quand tu fais un post sur Instagram, il se passe quelque chose. Langage et vibe de la promesse de Dieu. C'était pas dans mes notes, mais je trouve ça vraiment bon ce que je viens de partager. Luc chapitre 25, verset 15. Jésus, là, pendant qu'ils sont dans cette vibe-là, il y a une nouvelle vibe qui va arriver. Luc 25, 15. Jésus s'approcha. C'est incroyable ce texte-là. Réalisez la scène. Eux sont en déprime. Jésus est mort. Et là, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Combien sont d'accord avec moi pour dire ce matin que comment je me sens ne signifie pas ce qui se passe vraiment? C'est pour ça que j'ai pris une décision, ça fait longtemps dans ma vie, j'ai décidé de ne pas vivre comment je me sens, mais comment je crois. Je vous garantis que tous ceux qui m'écoutent prêcher depuis des années, on va dire, eh bien, je vous assure que si vous m'aviez vu et entendu à chaque fois comment je me sens, il y a eu des fois que la vibe n'aurait pas été trop bonne. Mais j'ai choisi, et j'espère que deux ou trois personnes qui vont faire ce choix et ceux qui nous regardent sur Internet également, ont choisi de vivre en mode ce que je crois indépendamment de comment je me sens. Parce qu'eux, ils se sentent déprimés et Jésus est avec eux. Ça dit que Jésus s'est approché, le mot grec qu'il utilise ici, c'est « egidzo », qui veut dire « extrêmement proche ». Et qui parle de « il fit route », quand ça dit « Jésus fit route avec eux », ça dit « Jésus voyagea avec eux ». C'est quand même fort. Ils sont déprimés parce que la promesse n'est pas arrivée et ils sont en présence de la promesse, réalisée. Attends, je répète ça. Ils sont déprimés parce qu'ils pensent que la promesse ne s'est pas réalisée. Ils sont en présence de la promesse réalisée. C'est incroyable. Jésus est extrêmement proche. Jésus est avec eux. Jésus est fraîchement ressuscité. Et eux, ils se tiennent à côté de l'espoir alors qu'ils n'ont plus d'espoir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas, écoutez bien là, toi aussi sur Internet, écoute ceci. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'espoir qu'il n'y a pas d'espoir. Ça, là, ceux qui sont sur les réseaux, là, tu postes ça sur les réseaux, ça va être viral. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'espoir, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'espoir qu'il n'y a pas d'espoir. C'est Luc Dumont, à Nouvelle Vie, qui a dit ça. Tout. Quelqu'un dit amen ce matin. Ouh. Alors, je veux dire ce matin que des fois, notre problème, quand on est en mode s'éloigner de la promesse, s'éloigner de la source, s'éloigner du lieu de la résurrection, s'éloigner de ce que Jésus a dit, eh bien, c'est parce que trop souvent, on est focalisé, et je vous comprends, je l'ai fait moi-même plein de fois dans ma vie, on est focalisé sur le problème. On est focalisé sur ce qui ne marche pas. On est focalisé sur ce qui n'est pas arrivé. On est focalisé sur ce qu'on aurait voulu qu'il arrive, puis ce n'est pas arrivé comme ça. On est focalisé sur la difficulté. On est focalisé sur le géant Goliath. David n'est pas focalisé sur Goliath, il est focalisé sur la puissance de Dieu contre Goliath. Un amen violent ce matin. Un amen Jérusalem. Donc, ce qui est important de comprendre ce matin, c'est que peu importe comment tu te sens en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes venu à cette célébration, en quel état d'esprit vous êtes ceux qui nous regardent sur Internet, Jésus te laissera jamais tomber. Jésus va te pourchasser là où tu es et Jésus va toujours accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir. Luc 24, 17, ça dit, au verset 17, ça dit, il leur dit, c'est Jésus a le sens du mot en passant, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Combien sont d'accord avec moi pour dire que Jésus sait très bien qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, c'est un bon thérapeute, il veut les faire parler. Et donc, Jésus, il dit, pourquoi vous avez un visage comme ça, un visage tout triste? Enfin, je disais tout à l'heure que le langage révèle beaucoup sur une personne, mais laissez-moi vous dire, le visage révèle énormément. Et moi, quand j'arrive dans des foules comme ça, ce matin, je suis venu à la prière, tout ça, je regarde les visages des gens. Et c'est révélateur, incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a deux genres de visages. Il y a le visage Jérusalem. Je pense qu'il y a une photo qui va apparaître. Le visage Jérusalem. Quelqu'un dit amen. Le visage de la promesse. Et il y a le visage Emmaüs. C'est un petit peu plus compliqué. Et ce matin, je ne dis pas ça, il n'y a aucune moquerie là-dedans. L'objectif, c'est que si vous êtes... Est-ce qu'on peut remettre Emmaüs, s'il vous plaît? Si vous êtes en ce moment en mode comme ça, ça, c'est votre vibe en ce moment. Aucune condamnation, j'ai déjà été dans cette vibe-là, moi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin même, on peut switcher de ça à visage Jérusalem. C'est ce que Jésus fait. Laissez-moi vous dire que le visage de la promesse... Il n'y a aucun Chanel numéro 48 ou il n'y a aucun Botox qui peut faire ça. Tu peux mettre 10 000 $ sur ton visage, ça va améliorer, mais ça ne fera jamais la puissance de la promesse de Dieu, de quelqu'un qui marche en mode promesse. Il est possible d'avoir ce visage-là, même avec un compte bancaire vide. Il est possible d'avoir ce visage-là, même avec un patron intolérable. Il est possible d'avoir ce visage-là, même avec un visa qui n'arrive pas. Il est possible d'avoir ce visage-là, même avec un salaire que tu n'aimes pas. Il est possible d'avoir ce visage-là, même dans un contexte compliqué. Pourquoi? Parce que tu es en mode promesse. Je crois la promesse. Dites avec moi, promesse. Il va accomplir Luc 24, 18. Il dit, l'un d'eux, disciple d'Emmaüs, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? C'est Jésus. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, qui était... Langage Emmaüs passé, qui était... un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il commence à parler de Jésus à Jésus. Et ça, en fait, ça là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une scène où des gens ne savent pas qui vous êtes et ils parlent de vous. Moi, j'ai vécu ça une fois, je vais en France et je suis arrivé le matin, c'était moi l'orateur pour prêcher, mais je pense que les gens ne me connaissaient pas trop. Et donc, je rentre dans le hall d'entrée de l'église, puis il n'y a personne pour m'accueillir, le pasteur, tout ça, il n'y avait rien. Et donc, je suis allé, il y avait comme 5-6 personnes au café, en train de se faire un café à l'entrée. Donc, je suis allé prendre un café. Et là, je suis là, mais je ne me présente pas, je ne dis rien, je prends le café. Et là, il y a deux personnes qui parlent. « Oui, ce matin, on a un Canadien avec nous. » Et là, je me dis « Oh, non, oui. » Et là, la dame a dit « Oui, je regarde toutes ces vidéos, c'est génial, il est top. » Et là, je dis « On peut rentrer dans la conversation. » Et quand j'ai dit « Ah, bonjour, c'est moi, votre invité. » La dame, tu vois qu'elle essaie de penser à tout ce qu'elle avait dit avant. Mais c'est un peu ça qui se passe ici. C'est qu'ils sont avec Jésus, ils parlent de Jésus, mais ils parlent avec Jésus en mode passé. Et au verset 21, regardez le langage. Ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici, et là ça va devenir intéressant, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Là, ils disent à Jésus, on espérait que, on aurait tellement aimé que, on avait des attentes que. Mais là, le punch du verset qu'on vient de lire, c'est que ça dit, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et si j'avais été Jésus, j'aurais dit, ouais. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, je vais ressusciter le 20e jour, le 2e jour, je vais ressusciter le 3e jour. Mais là, ils sont dans le 3e jour. C'est pas fini. Pourquoi, les gars, vous ne prenez pas une nuit d'hôtel à Jérusalem? Vous partirez le lundi? Évidemment, j'ai un autre message, une fois que je pourrais vous enseigner sur c'est comment Dieu fonctionne. Une des plus grandes révélations que j'ai eues dans ma vie, c'est étudier comment Dieu fonctionne. Parce que tu peux avoir deux personnes qui vont à l'église depuis 10 ans, les deux aiment Jésus, les deux lisent la Bible, il y en a un qui s'intéresse à comment Dieu fonctionne, puis l'autre n'est pas conscient de comment Dieu fonctionne. Donc quand tu es conscient comment Dieu fonctionne, bien, tu vas prendre de l'avance sur l'autre parce que tu comprends comment Dieu fonctionne. Donc, comment Dieu fonctionne, c'est qu'il fait toutes choses merveilleuses en mon temps, en son temps. Quand tu comprends comment Dieu fonctionne, c'est qu'il fait ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais c'est rare, et là ça fait plusieurs années que je marche avec Dieu, c'est très très rare que ça va être au début du 3e jour. Tu te lèves le matin du 3e jour, tu te réveilles, ah la résurrection. C'est très rare que c'est le début du troisième jour. C'est souvent le chèque. Il y a de moins en moins de chèques qui rentrent par la poste, mais c'est très rare que le chèque rentre le lundi matin. Il rentre souvent le vendredi soir, juste avant que la poste ferme. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà attendu un chèque. Et tout ça pour vous dire ce matin qu'eux, ils sont en train de tout lâcher alors que le troisième jour n'est pas fini. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, attends encore! Dis à ton voisin, attends encore. Il n'y a pas beaucoup de conviction, mais c'était quand même ça qu'il fallait dire. Et là, verset 21, nous espérions, on espérait qu'il se passe quelque chose. Et voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. En fait, c'est ultra important, mes amis, si vous voulez vivre l'accomplissement de la promesse et avoir la patience pour attendre l'accomplissement de la promesse, il est ultra important de comprendre le timing de Dieu. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes, là, ils commencent à expliquer, à se justifier, à expliquer, en fait, sont en train de s'enliser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que plus tu parles, plus tu t'enlises? Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et en fait, ça s'est réalisé le matin, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncer qu'il est vivant. C'est quand même pas un langage fréquent. Des femmes qui vont et disent « on n'a pas vu son corps, puis il y a des anges qui nous ont annoncé qu'il est vivant. » Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a remis une puce à l'oreille. Et là, ça dit « quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Qu'est-ce que vous faites en route vers Emmaüs? Il avait dit que ce serait le troisième jour. Et là, les femmes sont allées, des femmes de foi. Et juste une parenthèse pour vous dire ce matin, écoute les gens. Là, il y a des femmes qui pensent, écoute les femmes. Oui, 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 absolument. Dieu parle souvent au travers des femmes. C'est sérieux, les femmes ont une sensibilité aux choses spirituelles. Dieu parle très souvent au travers des femmes. Pas tout le temps, il faut juste discerner quand. Mais là, écoutez, c'est des disciples de Jésus. Jésus avait dit le troisième jour. Et là, le troisième jour, les femmes disent, il n'est pas là, il est au sépulcre. C'est des femmes de foi. Écoute les gens de foi dans ta vie quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu place des hommes et des femmes de foi dans ta vie. Écoute la voix des hommes et des femmes de foi quand toi, tu es dans la confusion. Et là, ils sont dans la confusion, tout ça. Mais je ne sais pas pour vous, une chance qu'on n'est plus comme ça aujourd'hui, ça se passait comme ça, les êtres humains à l'époque. Mais il me semble que je serais resté à Jérusalem. Et c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin, attends encore! Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. On va sauter quelques versets parce qu'on va aller droit au but. Luc 24, 28, ça dit, attention, Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Ça, c'est Jésus. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Quelqu'un dit à Jésus ce matin, « Reste avec nous. Reste avec nous. » Et car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut. Leurs yeux s'ouvrirent. En grec, c'est dianoigo qui veut dire s'ouvrir complètement. Ce matin, dans cette salle, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, des yeux vont s'ouvrir. Il y a des gens, j'ai déjà traversé des périodes comme ça dans ma vie, quand tu as l'impatience face à la promesse, tu ne vois plus rien. Tu as les faits. Tu as le miracle, tu as la promesse sous tes yeux, mais tu ne vois plus rien. Tu vois juste ta difficulté. Tu vois juste, tu es célibataire, tu vois juste le mariage qui n'arrive pas. Tu vois des parents qui veulent des enfants, tu vois juste la situation de l'enfant qui n'arrive pas. Tu vois juste le compte de banque qui ne se remplit pas. Tu vois juste la maladie qui ne se guérit pas. Mais ce matin, les yeux vont s'ouvrir. La promesse de la résurrection va ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils se dirent, au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? » Dans la présence de Jésus, il y a quelque chose d'inexplicable avec des mots, mais il y a un feu qui s'allume. « Notre cœur ne brûlait-il pas? » En grec, c'est « caillot », qui veut dire « allumer un feu enflammé ». Et c'est exactement ce qui va se passer en ce dimanche matin. Dieu va allumer des feux. Dieu va rallumer ton feu. Dieu va restaurer ton feu. Dieu va faire brûler des feux pour marcher avec lui, pour retourner à Jérusalem, pour le servir, pour pardonner, pour foncer, pour continuer, pour s'encourager, pour aller de l'avant. Le feu! Alors regardez bien ce qui se passe. C'est incroyable. Au verset 33, se levant à l'heure même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Caillot! C'est fou! Le feu, et c'est pour ça que j'ai dit au début de ce service, il va y avoir du feu ce matin ici. Le feu de Dieu, la présence de Jésus proche. Ça change la vibe, ça change la vision des choses, ça ouvre les yeux, ça te permet de voir à nouveau l'espoir, de croire à nouveau l'espoir, d'avancer à nouveau. Et ça dit qu'au moment même, ils n'ont pas eu 18 séances de « tu devrais peut-être… » Non, tout de suite, notre place, c'est pas ici. Notre place, c'est à Jérusalem. On vient de marcher, je ne sais pas combien de kilomètres, on remarche vers Jérusalem dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit « Amen » convaincant. Les musiciens vont s'approcher. Je vais terminer avec ceci ce matin. Je crois vraiment que dans ce lieu, quelque chose va arriver. Dans des cœurs, quelque chose va arriver. Il y a des gens qui avaient un visage de tristesse. Il y a des gens qui ont renoncé à la promesse. Il y a des gens qui ont oublié la promesse. Il y a des gens qui sont découragés face à la promesse. Il y a des gens qui ont un langage du passé. Mais quelque chose va arriver par le Saint-Esprit ici dans cette salle ce matin. Le feu va brûler à nouveau. Dieu ressuscite littéralement des ministères, des visions, des cœurs dans cette place ce matin. J'ai vu quelqu'un passer sur les réseaux sociaux il y a quelque temps de ça. Et quand je l'ai vu, il est en train de prêcher tout ça, j'ai dit « Wow, Dieu, t'es un grand Dieu ». Il y a quelques années de ça, je suis allé prêcher en Europe. Et un dimanche matin, à la fin du message, j'avais fini mon message, comme en ce moment, je finissais. Et c'est quelque chose de très rare que je fais, mais il y avait un monsieur qui était derrière, en arrière de la salle. C'était pas une très grande salle. Je dis, monsieur, je veux pas vous mettre sur le spot, mais j'aimerais vraiment prier avec vous. Est-ce que vous pouvez vous approcher ici? Je veux juste prier avec vous. Et le gars s'est approché en avant. Et quand j'ai prié pour lui, je dis, vous savez, Dieu est puissant. Et Dieu ne nous lâchera jamais. Le chant qu'on a chanté, l'amour extravagant. Je ne sais pas pour vous, juste une petite parenthèse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je ressuscite, disons que je meurs et je ressuscite, vous pouvez être sûr que je fais un méchant live. Je fais un live YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, toute la gang. Je suis en vie. Je ne suis pas sûr si j'irais marcher des kilomètres avec deux inconnus. Mais Jésus pourchasse. Et ces deux gars-là s'en vont dans la mauvaise direction et Jésus va les chercher, prend le temps, dans une journée où c'est incroyable. Et j'étais avec ce monsieur qui est en avant et je dis, peu importe ce qui arrive dans notre vie, Dieu nous pourchasse. Et monsieur, je déclare ce matin la résurrection de votre vie et de votre ministère. Et en disant ça, le monsieur s'est effondré littéralement, s'est effondré en larmes, par terre. On a prié, je ne sais pas combien de temps avec ça. Et quelques temps plus tard, il m'a écrit pour me dire, « Merci Luc pour ce dimanche matin. Depuis ce jour, je suis restauré dans le ministère. » Et là, je l'ai vu passer dans les réseaux, il était en train de prêcher, tout ça. Le feu peut être perdu, mais le feu peut revenir. Pourquoi? Parce qu'il te pourchasse. J'étais en Belgique il n'y a pas longtemps et à la fin du service, il y avait un monsieur, tu sais, genre armoire à glace. Le genre de monsieur que quand tu es devant lui, tu vois pas le soleil en arrière. Et quand il s'est approché comme ça, j'ai juste dit, monsieur, Lève-toi, vaillant soldat. Tu es maintenant soldat du roi des rois. Et c'est quand tu vois l'eau là, comme une fontaine, tout ça. Et j'ai appris que cet homme était dans les forces spéciales et l'a assisté au génocide du Rwanda. Il a été traumatisé profondément. Et c'est comme ce jour-là, il a comme décroché de Dieu, décroché de toutes ces choses-là. Et ce matin, lève-toi, vaillant soldat. Dieu te pourchasse. Pourquoi? Parce qu'il veut accomplir sa promesse dans ta vie. Et ce matin, il va y avoir des feux qui vont être allumés dans les cœurs. Ce matin, Dieu allume un feu nouveau dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Il y a des feux qui s'embrasent dans ton cœur ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux pendant un instant. Si vous êtes avec nous pour la première fois et ceux qui nous regardent sur Internet, il n'y a pas de hasard que vous soyez ici ce matin. Il n'y a pas de hasard que vous regardiez ce message ce matin. C'est Dieu qui veut ressusciter ce qui est mort. C'est Dieu qui veut allumer un feu dans ton cœur. C'est Dieu qui veut te ramener à l'endroit où tu dois être. Et ce matin, que tu sois en fuite, que tu sois en fuite physiquement ou que tu sois en fuite dans ton cœur, il te pourchasse dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Alors si vous êtes ici dans cette salle et vous dites, Luc, aujourd'hui, je veux revenir à l'endroit de la promesse. Je veux revenir à Jérusalem. Je veux revenir à mon appel. Je veux revenir à mon ministère. Je veux revenir à mes responsabilités. Je veux revenir à ce que Dieu a toujours voulu de moi. Je veux revenir à ce qu'il m'a promis. Je veux revenir proche de Jésus. Je veux peut-être venir pour la première fois à Jésus. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'histoire, là où vous êtes, je vous invite à lever votre main. On va faire une prière ensemble dans un instant. Toutes les personnes qui disent ce matin, je reviens à ce qu'il a promis. Amen. Pendant que nos yeux sont fermés, j'ai vraiment à cœur de prier ce matin. J'ai vraiment à cœur de prier pour toutes les personnes qui ont vécu une attente interminable et qui, en ce moment, attendent encore. Ce matin, je veux prier que le feu brûle dans ton cœur pour que tu aies ce courage d'attendre encore jusqu'à l'accomplissement. Ne lâche pas avant le miracle. Si c'est toi ce matin, lève ta main devant le Seigneur. Amen. On va faire une prière ensemble. Je vous invite à répéter avec moi cette prière. C'est une prière ultra importante. Et ensuite, on va avoir un chant de déclaration. Prions ensemble. Tous ceux qui ont levé la main et les autres, parce qu'on est une famille, on va prier solidairement en disant, « Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu l'avais promis et tu l'as fait. Ce matin, je crois ce que tu dis, tu l'accomplis. Et je veux déclarer ce matin un feu nouveau dans mon cœur. Je vais attendre la promesse. Je vais m'accrocher à tes promesses. Jésus, sois ma priorité. Je veux marcher avec toi. Je veux être là où tu me veux. Je veux rester près de toi. Fais brûler ton feu dans mon cœur. Aujourd'hui, je reviens à la promesse. Aujourd'hui, je déclare l'accomplissement de la promesse au nom de Jésus. Amen. Et on acclame sa majesté, le roi des rois. Alléluia! On l'acclame vraiment! Alléluia!